13h en temps universel, 14h ici à Paris, lors du journal avec Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. À la une donc, la Biélorussie, le pays d'Europe de l'Est appelé à élire son président aujourd'hui. Un scrutin sans grand suspense qui devrait octroyer à Alexandre Loukachenko un 7e mandat. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial à Minsk dès le début de ce journal. Dans la bande de Gaza, plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens toujours empêchés de rejoindre le nord de l'enclave à cause d'un blocage israélien. L'État hébreu qui refuse pour le moment de se retirer de cette zone, vous l'entendrez. La bande de Gaza où Donald Trump veut faire le ménage selon ses propres mots. Le président américain dit en effet vouloir envoyer les Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Une idée saluée par l'extrême droite israélienne et dénoncée par le Hamas et le djihad islamique. La Biélorussie vote ce dimanche pour une élection présidentielle, un scrutin qui se tient donc après celui de 2020 qui avait vu le pouvoir de l'homme fort du pays, Alexandre Loukachenko, vaciller face à la contestation du résultat jugé truqué par les opposants et la rue. 5 années de répression tous azimuts, menées d'une main de fer, qui ont permis à Alexandre Loukachenko de garder et même renforcer sa mainmise sur le pays. Aujourd'hui, après avoir voté, le président au pouvoir depuis 30 ans s'est exprimé longuement devant la presse et de nombreux correspondants étrangers auxquels il a été accordé un rare accès dans le pays. Nous sommes donc en ligne avec notre envoyé spécial à Minsk, Anissa El Jabri. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Alexandre Loukachenko a donc affirmé, lui, lors de cette conférence, ne pas avoir besoin de la reconnaissance, notamment des Européens, pour ce scrutin.
Oui, en même temps, ces prises de position des Européens qui jugent à coup de communiqué que ce scrutin n'a rien à voir avec une procédure démocratique, eh bien ces prises de position, elles ont l'air d'être suffisamment importantes pour que ce soit le tout premier sujet abordé à la conférence de presse. Première question d'un média biélorusse sélectionné par Alexandre Loukachenko, et cette réponse, ces décisions européennes ne signifient rien. Ces élections sont pour le peuple biélorusse. Une question de la BBC sur ses compétiteurs, dont l'un a par exemple dit vouloir voter Loukachenko, déclenche les applaudissements des médias de Biélorussie. Un sourire du président au pouvoir depuis 30 ans et son commentaire, c'est nouveau pour vous tout ça, n'est-ce pas ? Une autre sur les opposants, soit en exil, soit en prison, reçoit une réponse encore plus directe. Chacun est responsable de ses actes, a dit Alexandre Loukachenko, avant d'ajouter « Parfois, les gens ouvrent trop grand leur bouche, alors ils vont en prison. » Ou encore « Si les gens violent la loi, ils vont en prison. » Et même en prison, ils peuvent parler tant qu'ils le veulent. Le chef de l'État biélorusse qui répète en boucle « Ici, nous ne bâillonnons personne. » Son modèle de société, Alexandre Loukachenko l'a lui-même résumé en une formule. Il appelle ça une démocratie brutale.
Merci à vous Anissa El Jabri, envoyée spéciale de RFI à Minsk pour toutes ces précisions. Dans la bande de Gaza, le Hamas affirme qu'Israël a enfreint l'accord de cesser le feu en bloquant l'accès au nord de Gaza. Le nord de Gaza où des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés sont donc empêchés de retourner là où ils vivaient. Ils sont massés près du corridor Netzraïm qui coupe l'enclave en deux. Nous sommes cette fois-ci en ligne avec Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
À Jérusalem, pour RFI, Michel, l'État hébreu, lui, dénonce des violations de la part du Hamas.
Oui, même une double violation de l'accord de trêve. En premier lieu, Israël considère que l'otage civil Arbel Yehoud aurait dû être libéré hier, selon l'ordre de priorité stipulé par l'accord. D'abord les femmes civiles et ensuite seulement les soldats. La libération des 4 militaires hier a provoqué la remise en liberté d'un nombre plus important de détenus palestiniens et laisse planer des doutes sur le sort de 2 femmes civiles israéliennes toujours retenues à Gaza. Par ailleurs, toujours au terme de l'accord, le Hamas aurait dû fournir jusqu'à hier soir à minuit une liste détaillée des otages indiquant clairement s'ils sont morts ou bien toujours vivants. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, Israël attend maintenant des garanties sur la libération d'Arbel Yehoud et dément avoir reçu des preuves de vie de la jeune otage. L'armée israélienne ne permet pas à ce stade le retour des Gazaouis déplacés vers le nord de l'enclave palestinienne. Et on indique également qu'Israël a demandé l'intervention des médiateurs et aussi directement du président américain Donald Trump.
Michel Paul à Jérusalem pour RFI. Merci pour ces précisions. La bande de Gaza toujours, où le président américain, on l'évoquait, parlait lui hier d'un plan visant, je cite, à faire le ménage dans l'enclave. Donald Trump disant vouloir envoyer les Palestiniens de ce territoire vers l'Égypte et la Jordanie temporairement ou à long terme pour obtenir la paix. Ce sont ces mots, des déclarations qui ont fait l'objet d'un rejet sur les réseaux sociaux. Le président républicain qui doit appeler le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi pour lui demander d'accueillir ces Gazaouis au Caire. Les précisions d'Alexandre Bouchianti.
L'aile et le tahgir, non au déplacement forcé. Un hashtag qui est rapidement devenu une tendance sur Twitter et qui reflète le rejet total du projet défendu par le président Trump. Les internautes rappellent que le projet a été proposé par la droite israélienne depuis des années. Un journal publie sur Twitter un dessin avec un doigt d'honneur au deal du siècle proposé par Trump. Les appels à la mobilisation contre la conspiration se multiplient, y compris de la part de journalistes proches des plus hautes autorités égyptiennes. C'est le cas d'Ahmad Moussa, qui écrit sur son compte qu'il n'est pas question de laisser liquider la cause palestinienne en forçant les Gazaouis à se déplacer dans le Sinaï égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sissi a rejeté cette proposition à maintes reprises. Les médias égyptiens parlaient d'une nouvelle Nakba, le nom donné par les Arabes au départ forcé de centaines de milliers de Palestiniens après la déclaration de l'État d'Israël. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Et ces fortes tensions à la frontière nord d'Israël avec le Liban, l'armée israélienne a ouvert le feu aujourd'hui sur des habitants du sud Liban qui tentaient de revenir dans leur village par centaines. Au moins 11 morts et 83 blessés sont à déplorer selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé. Le précédent bilan faisait état de 3 morts. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence aujourd'hui pour discuter de l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par le Rwanda après l'échec d'une médiation RDC-Rwanda sous l'égide de l'Angola. Le M23 et 3000 à 4000 soldats rwandais, selon l'ONU, ont rapidement gagné du terrain ces dernières semaines. Ils encerclent désormais presque complètement la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma, qui compte 1 million d'habitants et de nombreux déplacés. Et ces derniers jours, 13 soldats étrangers, dont 3 casques bleus, ont été tués. Le porte-parole de l'armée congolaise a accusé hier le Rwanda d'être déterminé à s'emparer de la ville de Goma, tout en assurant que les forces armées de la RDC sont elles aussi déterminées à repousser l'ennemi. Au Soudan, l'attaque hier contre le principal hôpital d'El Fasher a fait au moins 70 morts. C'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui l'a annoncé aujourd'hui. L'hôpital saoudien est pourtant le seul fonctionnel dans cette ville assiégée dans l'ouest du pays. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné dans un communiqué cette attaque qu'il dénonce comme une violation du droit international et humanitaire. Le ministère saoudien des Affaires étrangères qui appelle également à la protection des travailleurs médicaux et humanitaire. Pour terminer cette édition, je vous propose d'aller en Colombie où la situation sécuritaire dans la région de Catatumbo, située à la frontière avec le Venezuela, continue de se détériorer. Vendredi dernier, l'armée colombienne a lancé des offensives contre la guérilla de l'ENL, l'armée de libération nationale, enterrant définitivement tout espoir d'accord de paix. C'est des opérations qui font suite au déploiement massif de membres de cette guérilla depuis la mi-janvier dans la région où ils font régner la terreur. Et hier, samedi, le président colombien Gustavo Petro a proposé au Venezuela d'aider la Colombie dans sa lutte contre l'ENL, mettant ainsi face à ses contradictions le régime de Nicolas Maduro, accusé de soutenir cette dite guérilla. Les précisions avec Romain Lemaresquier.
Gustavo Petro sait pertinemment que le Venezuela ne viendra pas en aide à son pays dans sa guerre contre l'ELN. Et pour cause, selon les renseignements colombiens, l'armée de libération nationale bénéficie du soutien du Venezuela, ce qui lui permet d'opérer des deux côtés de la frontière. Selon Human Rights Watch, les liens entre les deux parties seraient même plus importants. L'ONG affirme par exemple que les forces de sécurité vénézuéliennes ont mené des opérations conjointement avec la guérilla. L'appel lancé ce samedi par Gustavo Petro est donc une sorte de pied de nez fait aux autorités vénézuéliennes pour démontrer à qui en doutait que le Venezuela ne compte pas bouger sur ce dossier. Depuis le 16 janvier dernier, l'ELN cible dans la région de Catatumbo des dissidents des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, mais aussi des civils. Selon les autorités colombiennes, au moins 80 personnes sont décédées et 38 000 autres ont dû fuir la région ces dernières semaines. Une situation qui a obligé les forces colombiennes à intervenir et lancer des offensives. La situation est si tendue que plus d'une centaine de dissidents des FARC ont même décidé de rendre leurs armes, selon un général de l'armée colombienne.
Romain Lemaresquier pour cette fin d'édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, ce sera d'ici 50 minutes. Tout de suite, vous retrouvez l'émission Si loin, c'est proche. Bonne suite des programmes.